session de théologie par le Père Jean-Marie Arimont sur l'Église, peuple et famille de Dieu, le 21 mars 1998, première conférence.
Alors nous allons ce matin regarder la constitution dogmatique du Concile Vatican II, intitulé « Lumen Gentium ». Avant cela, une petite question m'a été posée. Je vous en fais part. Il a été dit hier que Dieu aurait dû arracher progressivement les Juifs de l'amour de la terre afin qu'ils deviennent plus spirituels. Bon, à peu près. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas l'excès inverse, opposé ? Les chrétiens marchent à fond dans le spirituel, mais la doctrine sociale de l'Église sur l'argent et la propriété privée reste suspendue en l'air. Alors ça c'est clair, hein, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il est beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous de considérer que notre vie chrétienne c'est simplement l'intériorité intériorisante. Et dès qu'elle se manifeste dans des actes concrets responsables, aussi bien dans la vie du travail que dans la vie associative ou la vie politique, c'est beaucoup plus difficile. Rappelez-vous ce que je vous disais hier, hein, et le baptême est censé informer l'ensemble de notre personne humaine. Donc aussi bien le travail que la vie publique sont concernés par notre vie baptismale. Donc c'est clair, là on a tous un lieu de conversion fondamental à faire en sorte que rien ne soit en dehors de l'évangile. Alors n'est-ce pas pourquoi le pape Jean-Paul II dit dans Tertio Millenio Adviente, ne pas avoir su ni comprendre ni mettre en pratique la doctrine sociale de l'Église est l'un des plus grands péchés des chrétiens du XXe siècle. Voilà. Ben, c'est résumé, c'est clair. Donc oui, ce serait important que les uns et les autres on se forme à la doctrine sociale de l'Église pour comprendre que ben voilà, notre vie chrétienne n'est pas simplement une sorte de qualité intérieure, que ça demande un certain rayonnement extérieur. Alors maintenant, le texte de la Constitution Lumen Gentium, il est clair, je ne pourrais pas tout lire avec vous. Dans un premier temps, on va regarder comment, le contexte dans lequel est née cette Constitution, qui est un contexte important au regard du Concile Vatican I. Et ensuite, on regardera l'ordre interne de cette constitution pour terminer enfin sur la lecture de quelques textes de cette constitution. Alors, sachons qu'il y a eu un concile qui s'appelle le Concile Vatican I, qui s'est terminé en 1870 hein, avec la déclaration de la guerre. Et juste avant le terme de ce concile, les pères conciliaires travaillaient sur une constitution qui s'appelait De Ecclesia, c'est-à-dire au sujet de l'Église. Et le premier chapitre, qui était le seul à valider, a abouti à un dogme, et ce dogme on connaît tous, c'est l'infaillibilité pontificale. Autrement dit, de 1870 au Concile Vatican II, voyez, le regard novateur de l'Église, en fin de compte, c'était le regard de l'infaillibilité pontificale. Et c'est vrai que la théologie, l'ecclésiologie, avait tendance à se réduire au simple fait que le pape est infaillible et que en lui, l'ensemble de lui découle l'ensemble de la structure ecclésiale. Le souci du Concile Vatican II, c'est de reprendre ce qui a été inachevé. Sachons bien, vous voyez, le Concile du Vatican I s'est arrêté pour cause de guerre, ne l'oublions pas. Donc, un des buts du Concile, c'était de reprendre ce premier Concile du Vatican pour essayer d'en donner la pleine portée. Et c'est ce que se propose cette Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Alors, l'ordre est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que le regard premier sur l'Église n'est pas un regard de fonctionnalité. Ou sinon, un regard sur tous les problèmes que pose l'Église. voyez, souvent, et là c'est une des nouveautés du Concile Vatican II, voyez, souvent les textes conciliaires se situent toujours face, du moins la grande majorité du temps, face à une hérésie. Et ce qui sort d'un concile, c'est celui qui dit ça, qu'il soit anathème, point. Et là, le souci du concile, c'est de réfléchir sur le mystère de l'Église en tant que tel, et non pas simplement sur tous les problèmes que pose l'ecclésiologie. Alors pour ça, on a un lieu étonnant, c'est toute la réflexion de l'Église au regard du modernisme. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce que représente la crise moderniste. Et c'est vrai que dans cette crise moderniste, voyez, les documents du magistère avaient tendance à réfléchir uniquement par rapport aux difficultés qui étaient posées. Là, ce n'est pas du tout la problématique du concile. Entre guillemets, on met les difficultés de côté, on essaie de réfléchir sur le mystère de l'Église en tant que tel, et par cette réflexion de fond, on pourra répondre aux difficultés qui sont posées. Donc, vous voyez, un souci d'une, entre guillemets, d'une réflexion plus synthétique. Et là, il y a eu une grande bataille entre les pères conciliaires. Alors, il faut lire les minutes du concile, ça vaut le détour. Surtout sur les schémas, vous voyez, la structure des différents schémas. Le premier schéma de la constitution sur l'Église de Vatican II était un schéma qui commençait par la dimension hiérarchique. Autrement, l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs. Voilà, vous voyez, le premier schéma dont je vous parlais hier. Et les pères conciliaires ont souhaité aborder la chose d'une façon complètement différente. C'est pour ça que le premier regard, c'est le mystère de l'Église. Ça, c'est le premier chapitre. Qu'est-ce que l'Église ? Et on verra, vous voyez, la pleine signification de l'Église ne peut se découvrir que dans la lumière de la Très Sainte Trinité. Et aussi, je pense que tout le monde, vous avez plus ou moins le plan, là. Donc regardez-le bien, lisez un petit peu la structure des différents chapitres. Et au chapitre 2, avant de parler de la constitution hiérarchique de l'Église, on va d'abord regarder l'Église comme peuple de Dieu. Vous voyez, c'est important, c'est l'intitulé de cette session, Église, peuple et famille de Dieu. Vous voyez, le premier regard que l'on doit avoir sur la communauté qu'est l'Église n'est pas d'abord un regard par le gouvernement, mais d'abord un regard d'unité entre les différents membres. Autrement dit, ce n'est pas d'abord le fonctionnement qui doit être premier, et ce n'est pas par le fonctionnement que je vais comprendre ce qu'est le mystère de l'Église. Au contraire, c'est en découvrant ce qu'est l'Église que je vais découvrir le mode de fonctionnement. Vous comprenez, si l'Église ressemble à une sorte de régiment où vous avez le chef de corps, après vous avez les chefs de compagnie ou de bataillon, puis ainsi de suite, on descend jusqu'au petit piou-piou qui fait la vaisselle, ou qui nettoie l'armement. C'est clair que, vous voyez, la structure, elle est de fait en soi un rapport d'autorité et un rapport dans le faire. Alors que si je regarde d'abord l'Église comme une famille, ce qui prime, ce sont les liens personnels et ce qui unit chacune de ces personnes. Alors, c'est important parce que l'Église dans ce qu'on appelle le droit canon. Le droit canon, c'est le droit de l'Église. Je vous invite de temps en temps à aller regarder ce que c'est que ce livre. Et le dernier paragraphe du droit canon est quelque chose d'extraordinaire, où il est dit « N'oublions pas que tout le droit de l'Église est en vue du salut des âmes. » Vous voyez, ça change la finalité de l'efficacité de la hiérarchie. Donc si je comprends que la famille, que l'Église est une famille, est un peuple, uni et rassemblé par Dieu, le gouvernement et la hiérarchie de l'Église se fera en fonction de cela. Et non pas en fonction d'un autoritarisme décrété par monsieur le curé ou par tel ou tel évêque. Et je comprendrais que la hiérarchie est au service de cela. Autrement dit, l'intelligence que j'aurai de la hiérarchie ecclésiale se fera en fonction de ce qu'est l'Église. Souvenez-vous cette expression de Saint Grégoire le Grand, un serviteur des serviteurs. Autrement dit, l'épiscope, il est au service de la famille de Dieu. Il est au service du peuple de Dieu. Et dans ce sens-là, après, je pourrais regarder, c'est ce qui sera fait au chapitre 3, la hiérarchie ecclésiale, qui se fonde sur la succession apostolique. Les évêques unis à Pierre. Les apôtres unis à Pierre. Après, au chapitre 4, là, c'est un lieu où on s'arrêterait un petit peu. On nous parle du laïcat. Qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? Comme intéressant, hein ? Savoir ce que la grande majorité d'entre nous, et dans cette salle, je pense qu'il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 personnes qui ne sont pas laïques. Et donc c'est quand même important, même quand on est religieux, on est laïque. Sauf si on est diacre ou prêtre. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce que ça signifie, le fait d'être laïque. Après, chose sur laquelle là, j'insisterai beaucoup, c'est le chapitre 5 qui manifeste la finalité de l'Église. La finalité de l'Église, c'est quoi ? C'est que chacun puisse devenir saint. Alors vous voyez, là il y a une question de fond. Hein. C'est très souvent on considère la sainteté comme l'aboutissement personnel de notre existence, comme une qualité personnelle qui nous est donnée et qui fait que les gens nous regardent en disant « quelle merveille ». Vous voyez, la sainteté, au sens où le Concile l'entend, c'est dans la mesure où nous sommes resplendissants du mystère de Dieu, nous sommes signifiants du mystère de l'Église. Et c'est quand même important de découvrir ça. Autrement dit, voyez, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens nous regardent en disant « quel homme merveilleux, c'est extraordinaire, un être pareil, c'est quelle vertu, quel summum de sagesse, et ainsi de suite. Et on aimerait que cela soit reconnu en nous. Alors que justement, la sainteté nous qualifie comme membres par excellence de l'Église, parce que par la sainteté, nous sommes resplendissants du mystère du Christ. Alors, après, il y a un paragraphe sur les religieux, ça je passerai. Les frères l'ont déjà sûrement lu et travaillé. Le chapitre 7 et le chapitre 8 ont une importance vitale pour comprendre l'Église. La première, c'est la dimension eschatologique, hein, c'est-à-dire ce qui va venir. Et c'est l'Église qui porte en elle les promesses de la vie éternelle. Et après, c'est la place de Marie dans l'Église, sur lequel j'essaierai de m'arrêter un petit peu avec vous. Alors, maintenant, je vous renvoie aux photocopies qui ont été faites, hein, que vous devez avoir sous les yeux. Et nous allons voir en quoi le mystère de l'Église ne peut se découvrir qu'à travers le mystère de la Très Sainte Trinité. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait généralement quand on veut réfléchir sur une institution ? Ceux qui connaissent Aristote, regardez la façon dont Aristote réfléchit sur les institutions. La constitution d'Athènes, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde le mode de fonctionnement. Et après, il juge ce mode de fonctionnement. Et c'est souvent comme ça qu'on peut juger d'un gouvernement. Il n'y a rien de très mystérieux dans un gouvernement, si les alliances pour qu'ils puissent se réunir. Mais ou sinon, on ne peut pas dire qu'un gouvernement ce soit extraordinairement mystérieux, au contraire. Ce n'est pas mystérieux, c'est opaque. Il y a une différence, on verra la différence entre le mystère et l'opacité. Et Ce qui est important, c'est de voir que ce type de regard, qui est un regard de phénoménologie, autrement dit, par une induction descriptive, ne me permet pas de comprendre ce qu'est la réalité de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas d'abord une institution qui vient des hommes, et donc qui tire de sa visibilité une signification humaine, mais c'est une institution qui vient de Dieu. Donc force est de découvrir comment cette institution venant de Dieu est réalisée par Dieu. Vous voyez, l'ordre est complètement différent. Pourquoi ce regard ? Pour éviter d'être déçu sur l'Église. Parce que vous voyez, si j'induis de l'expérience que j'ai des relations ecclésiales ce qu'est le mystère de l'Église, eh bien, je vous assure que ce n'est pas transcendant. Vous voyez, les gens qui vivent dans une grosse communauté, ça se voit pas, mais vous voyez, les gens qui vivent dans un petit prieuré auprès des frères, je vous assure, c'est l'image de valeur de la communauté religieuse, elle descend d'un cran là. C'est, l'humanité revient au galop. Et il est clair que si on regarde le fonctionnement de l'Église de France avec tous ses problèmes, ou le fonctionnement d'une paroisse avec tous ses problèmes pour dire voilà l'Église, on est mal parti. Vous voyez, donc c'est important de là d'abdiquer le regard d'efficacité qui est le nôtre, hein, pour savoir que de toute façon, si je ne fais qu'une description de l'Église, je ne peux pas savoir ce qu'elle est. Cette affirmation, hein, l'Église est sainte, elle est composée de pécheurs. Vous voyez, c'est moi, qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que j'expérimente, c'est le pécheur. C'est dur, mais c'est comme ça. Et donc, est-ce que je peux du péché inférer le mystère de l'Église? Il est clair que non. Pensez à Freud, vous voyez, qui impère une anthropologie à partir de personnes qui sont dans une clinique psychiatrique. C'est quand même sympathique pour la définition de l'être humain. Autrement dit, un cas clinique, hein, lisez les 10 psychanalystes de Freud, vous voyez, l'homme au rat, par exemple, c'est ce qui va constituer l'anthropologie freudienne. Bon, j'espère qu'on n'a pas tous la même problématique que ces gens, que ce cas clinique, ce qui fait que ce n'est pas à partir d'un cas clinique que je vais dire ce qu'est l'homme. De la même façon, ce n'est pas à partir du cas clinique que je vois dans les relations ecclésiales que je vais pouvoir dire ce qu'est l'Église. En revanche, ayant découvert ce qu'est le mystère de l'Église, je dois apprendre dans le fonctionnement à tendre vers cette réalité. Autrement dit, c'est le mystère qui éclaire et non pas l'expérience empirique qui va éclairer. Alors, qu'est-il dit ? Là, je vais lire avec vous ce texte, donc le chapitre, le premier paragraphe du chapitre premier. Le Christ est la lumière des peuples. Réuni dans l'Esprit Saint, le Saint-Concile souhaite, donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Première indication, l'Église est le signe de la clarté du Christ. Cette notion, elle est très importante. Hein. On la revoit dans la théologie baptismale. Vous voyez, un ancien rythme baptismal affirmait que le baptisé était un alter Christus. Alter Christus signifiant un autre Christ. Et il est clair que par le baptême, en moi, le mystère du Christ s'établit. Par l'incarnation, le mystère de Dieu est rendu visible. Par le mystère de l'Église, l'incarnation peut être opérée dans l'histoire jusque dans l'éternité. Autrement dit, vous voyez, c'est, la barre, elle est haute. Et autrement dit, la barre, ce n'est pas une communauté qui fonctionne, qui va avoir un budget, une administration formidable. Et puis voilà. Mais l'exemplarité de l'Église n'est pas dans son mode de fonctionnement. L'exemplarité de l'Église est parce qu'elle manifeste la clarté du visage du Christ. Alors, ça, il faut le vivre à deux niveaux. Il faut le vivre d'abord d'une façon personnelle et après d'une façon communautaire. Au point de vue personnel, hein, souvenons-nous de cette affirmation de saint Paul aux Galates, qui invite les Galates à renouveler leur manière de penser et d'agir dans le Christ Seigneur. ce qu'on pourrait appeler comme principe spirituel, où il y a un principe d'identification au Christ. Faire en sorte que par ma vie baptismale, je puisse aimer comme Jésus aime et je puisse connaître comme Jésus connaît. Quand même une sacrée exigence personnelle. Et tout le travail de l'Église au point de vue communautaire, il est là aussi. Aimer comme Jésus aime, connaître comme Jésus connaît, coopérer au salut que le Christ vient apporter. Alors après, le concile continue. L'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Alors là, c'est quelque chose d'important. Un sacrement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? Je suis persuadé que tout le monde pourra définir sans problème le mot un sacrement. Le sacrement vient du mot mystère. Ce qui est important, c'est de voir que dans ce mot mystère, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de quelque chose qui est caché, et il y a l'aspect de quelque chose qui devient visible. Ce qui est caché, c'est ce qu'on va appeler l'occulte. Vous voyez, quelque chose de caché, on va appeler ça quelque chose d'occulte. Et souvent, on comprend le mot mystère comme ça. Et quand on dit à quelqu'un, on parle de la foi, on va, par exemple, dans une discussion au café, à midi, on parlera, je ne sais pas, des circonvolutions trinitaires. Terme communément admis pour parler des rapports interpersonnels au sein de la très sainte Trinité. Bon, discussion de café. Entre frères. Hein. Et puis, quelqu'un se joint à ce type de discussion, imaginons une sœur, puis elle se dit, tout ça, c'est un mystère. Combien de fois j'ai entendu ça ? Et je suis persuadé que de temps en temps, quand on se trouve face à quelque chose de difficile dans l'ordre de la foi, on dit c'est un mystère. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est-à-dire que c'est quelque chose de caché, on ne peut pas savoir. On passe du mystère chrétien à l'occultisme. Et là, c'est important cette distinction. Ça veut dire que tout ce que je considère comme quelque chose un peu d'opaque, un peu de flou, je mets ça sous le mot de mystère. Et je dis, il est grand le mystère de la foi. Vous voyez, quand on dit ça à la messe, ça ne veut pas dire c'est flou et je suis content parce que j'ai rien à comprendre. Ça veut dire, je rends grâce à Dieu parce que ce qui était caché est manifesté. Vous voyez, et quand je parle de mystère, le mysterion, qui a été traduit, c'est un mot grec qui a été traduit en latin par sacramentum, ça signifie quoi ? Ça signifie que ce qui était caché de toute origine, Dieu l'a manifesté. Et non pas quelque chose d'opaque que j'ai pas à comprendre. L'Église, pour me maintenir bête et idiote, me dit c'est un mystère, vous n'avez rien à comprendre, c'est la foi du charbonnier qu'on vous demande. Vous voyez, cette attitude, c'est une attitude d'occultisme. C'est pas loin d'une attitude de secte, hein, d'ailleurs. Autrement dit, on considère que Dieu nous donne pas une dignité d'intelligence, et donc on peut pas comprendre, et il nous mène d'une façon sans respecter notre mode de connaissance. Eh bien, Dieu fait pas ça, il est respectueux de ce que nous sommes. Vous voyez, faites bien cette différence entre ce que j'appelle mystère et au sens chrétien et ce qu'on appelle mystère au point de vue commun. Vous voyez, il y avait une émission il y a quelques années, le mystère, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Et dans la même émission, vous aviez un petit reportage sur Marthe Robin, un petit reportage sur quelqu'un qui cherche des sources, un petit reportage sur quelqu'un qui fait tourner des tables, vous voyez, c'est le tout confus. Et le mystère, c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Eh bien, je suis désolé. Au sens de l'Écriture, le mystère, c'est quelque chose que l'on peut recevoir, c'est-à-dire ce qui est caché devient visible. Donc le sacrement par excellence, c'est-à-dire le mystérion par excellence, quel est-il ? D'après saint Paul, c'est le mystère de l'incarnation. Parce que dans le mystère de l'incarnation, celui qui est invisible s'est rendu visible. Celui que l'univers ne peut contenir est né dans une grotte. Vous savez, la liturgie de Noël nous dit ça. Autrement dit, le sacrement de Dieu par excellence, c'est le Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils, lui qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. Donc qu'est-ce que va être l'économie sacramentelle de Dieu ? De rendre visible à l'homme ce qui est pour lui invisible. Donc derrière ça, vous voyez, le sens le plus profond de la sacramentalité, c'est Dieu qui communique à l'homme son amour. Parce que qu'est-ce que c'est que le mystère de l'incarnation? La raison formelle du mystère de l'incarnation, Dieu communique son amour. Par l'incarnation. Et cela d'une façon visible. Dieu aurait très bien pu dire, parler dans le cœur de chacun d'entre nous en disant « Je suis Dieu, trois fois saint, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, fermez les yeux, écoutez-moi au fond de votre cœur. » Il aurait pu faire ça. Hein. C'était dans l'humaine du possible. Le problème, c'est qu'il nous a respectés. D'ailleurs, ce n'est pas un problème, au contraire. Et autrement dit, tenant compte de ce qu'est sa créature, il rentre en relation en fonction de ce qu'elle est. Et ça, c'est l'économie sacramentelle. Vous voyez. L'amour de Dieu communiqué ne peut être que la révélation du mystère divin, donc du sacrement, au sens général. Vous voyez. Pour l'instant, je ne parle pas des sept sacrements. Je parle de la sacramentalité générale, qui est la visibilité de l'amour divin. Et donc le sacrement par excellence, souvenez-vous-en, c'est le mystère d'incarnation. Alors, par rapport à l'Église sacrement, il est précisé deux choses. L'Église des sacrements, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Alors, vous voyez, ça c'est très important parce que un sacrement, c'est toujours un signe efficace. Ce n'est pas simplement une sorte de signe dans le ciel en disant « Regardez comme c'est beau ». Vous voyez, quand Dieu communique son amour, c'est créateur. D'ailleurs, vous voyez, quand on réfléchit sur la grâce c'est quoi? C'est le regard d'amour que Dieu porte sur moi. Ce regard d'amour, il est créateur, il me renouvelle. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'intentionnel. C'est pour ça que c'est un signe. Vous voyez, dans la dimension de sacrement, vous avez un signe. Mais en même temps, une notion de moyen. Et cette notion de moyen, c'est de permettre deux choses. C'est l'union à Dieu et l'union du genre humain. Il est important de garder aussi les deux. Vous voyez, si l'Église sacrement est signe, elle est signe de quoi? De la clarté du visage du Christ. Mais le fait qu'elle soit signe de la clarté du visage du Christ, c'est aussi le moyen par lequel l'homme va être uni intimement à Dieu et l'homme va être uni intimement à son frère. Il est clair que si on coupe une partie, on dira quoi de l'Église? L'Église, c'est le resplendissement de la clarté du Christ qui permet mon union intime avec le Christ. Point, terminé. Là, je mutile le mystère de l'Église. Autrement dit, je ne peux pas simplement concevoir l'Église comme un mouvement de spiritualité dans lequel je suis bien. Souvenez-vous ce texte de Jean-Paul II sur la vocation des fidèles laïcs, Christi fideles laici. Et le Saint-Père, dans ce texte, donne les critères d'ecclésialité des mouvements qui se réclament de l'Église. On va monter un mouvement de spiritualité, sur le cœur de Jésus, sur le cœur de Marie, sur Notre-Dame de Guadeloupe, sur Saint Thomas, Saint Dominique, tout ce qu'on peut. On fonde quelque chose au point de vue spirituel, on le rattache à l'Église. Le souverain pontife dit, un des critères de discernement, c'est que ce mouvement soit ouvert à l'évangélisation. S'il est fermé sur lui-même, il meurt. Vous voyez, autrement dit, si je ne regarde l'Église que comme le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu, je mutile le mystère de l'Église. J'en fais un club spirituel extraordinaire. C'est bien, nous sommes des saints, mais j'en fais une secte. Le phénomène le plus criant dans l'histoire, c'est les cathares. Et les cathares qui a combattu Saint Dominique. Les cathares, c'était des gens extraordinaires. Ils misaient complètement pour l'intimité avec Dieu. De là, ils tirent une perfection. Et puis point. L'unité du genre humain, aucun intérêt. Vous voyez, on entend souvent cette expression, je ne peux pas me sauver en dehors de mon frère. Vous voyez, on en trouve la raison là. Et autrement dit, je ne peux pas accéder en plénitude à la vie chrétienne si mon frère est exclu. Et c'est le sens de la communion fraternelle, la communion des saints. Je vous invite, hein, si vous avez le temps, ça c'est un lieu de détente, relisez le dialogue des Carmélites de Bernanos. Vous voyez, où il parle de la communion des saints. Et chose étonnante pour lui, la communion des saints se structure d'abord dans la chair. Nous avons la même chair, ce qui fait qu'il y a une unité. Et cette unité, elle est donc vitale. Ou sinon, vous voyez, Claudel aussi a des passages extraordinaires dans ce domaine-là. Mais vous voyez, c'est important de voir que ce n'est pas optionnel, l'unité du genre humain. Il y a l'aspect de l'union intime avec Dieu et l'aspect de l'unité du genre humain. Il faut garder les deux aspects. Alors je continue la lecture. Elle se propose de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. Alors là, permettez-moi de vous renvoyer à l'exhortation apostolique de Paul VI, hein, Evangelii Nuntiandi, où il précise le rapport entre la nature même de l'Église et l'évangélisation. Et ça, donc, on a une continuité entre cette phrase du concile et ce que Paul VI dira dans Evangelii Nuntiandi. À ce devoir qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Il faut en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Alors, il y a deux remarques à cela. Premièrement, nous éviter l'anachronisme historique. Et quand je regarde l'histoire, il faut toujours que je puisse la regarder à travers la culture dans laquelle elle a été vécue. Ben, ce n'est pas automatiquement idiot dans le contexte de l'époque. Et donc, il est important de voir que l'histoire, ce n'est pas un déroulement dialectique. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui est plus parfait de ce qui se vivait au Moyen-Âge ou pendant le 19e. C'est l'Esprit Saint permet à l'Église d'avoir sa maturité à travers les siècles. Et la maturité du siècle présent, faut-il pouvoir la discerner ? Et le lieu du discernement, nous dit le Concile, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité n'a jamais été autant unie. Et d'ailleurs, c'est vrai, regardez les moyens de communication sociale. Je ne sais pas si certains d'entre vous surfent sur le web ou utilisent l'email, mais il est clair qu'on a une discussion avec... Dernièrement, j'avais une discussion avec les frères de Bucarest. J'étais à mon écran, ils étaient sur leur écran, et on discutait comme si on pouvait croire qu'ils étaient dans la pièce d'à côté. C'est un style d'unité. Aujourd'hui, le pape éternue ou dérape dans sa baignoire, tout le monde le sait. C'est un type d'unité. La reine d'Angleterre a mis un chapeau de telle couleur. Tous les journaux de ce style en parlent. C'est ainsi. On n'a jamais été plus proches les uns des autres, hein, au point de vue de la communication. Le problème, c'est que cette proximité, eh ben, d'une certaine façon, elle nous met dans des isoloirs. Vous voyez cette définition si belle de l'informatique, hein, d'un Américain qui dit « L'ordinateur nous permet de ne pas être où nous sommes et de croire que nous sommes où nous ne sommes pas. » Méditez ça. Autrement dit, c'est la définition du virtuel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en communion, mais en fin de compte, on s'ignore royalement. On est unis, mais on est unis d'une façon tellement superficielle que c'est même plus l'unité des personnes. Parce qu'on a des moyens qui vont très vite. Et pensez, un frère a besoin d'aller, je ne sais pas moi, au Québec, il fait 6000 km, il en a pour 10 heures. C'est quand même quelque chose. Vous, il y a 50 ans, vous allez au Québec, on s'amusait, hein. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on est dans une situation actuelle où l'unité se réalise. Mais quel type d'unité ? Le dessein de l'Église, c'est l'unité du genre humain avec Dieu. Eh bien, cette unité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas énormément. Il est clair que les liens sociaux nous unissent, les liens techniques nous unissent, les liens culturels nous unissent. Mais il faut chercher la pleine unité du genre humain dans le Christ. Alors, derrière ça, il y a quelque chose, vous voyez, à mon avis, d'intéressant. C'est de réfléchir à notre mode d'unité. On n'est pas unis parce qu'on a un dénominateur commun. On est unis parce qu'on a la même finalité. Et dans l'exercice de cette finalité, on opère ensemble. On pourrait dire le dénominateur commun des frères de Saint-Jean, c'est d'avoir un habit. Ce n'est pas ça qui fait l'unité. C'est d'avoir un fonds de formation aristotélico-thomiste. Ce n'est pas ça non plus qui fait l'unité. Ce qui fait l'unité, c'est l'exercice de la finalité. Et cela, on l'exerce ensemble. De la même façon, dans la communauté chrétienne dans laquelle nous sommes, nous avons à découvrir notre unité. Et quels sont les moyens que je vais utiliser? Alors là-dessus, il y a une double tentation à éviter. La première, c'est la tentation passéiste. Où on dit, ah ma pauvre dame, dans le temps, c'était point comme ça. Autrement dit, le refus catégorique de tout ce qui... Vous voyez, sorte de crainte, vous voyez, des... Bon, alors maintenant, c'est passé dans les mœurs, parce que quelqu'un qui aujourd'hui sort en terminale, il a vécu avec un ordinateur dans les mains. Mais vous voyez, mais les personnes qui ont entre 35 et 45 ans, dès qu'on parle d'ordinateur, on a l'impression que... Surtout, faut pas toucher à ça. Vous voyez, le danger passéiste consiste à dire, mais avant, c'était bien mieux. Alors peut-être qu'avant c'était bien mieux, mais après ça je fais quoi? Je reste dans la nostalgie? Alors dans ce cas-là, allons dans le Larzac. Supprimons l'électricité, supprimons le téléphone, puis retournons au tam-tam, et puis à la bougie. On pourrait éventuellement avoir ce type de culture. Mais il est clair que, vous voyez, ça répond plus tout à fait à l'affirmation de Saint Jean, hein, c'est être dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et c'est dans le monde qu'on porte du fruit. On ne porte pas du fruit en retrait du monde. Ce n'est pas la vocation de l'Église. Alors, rapidement, nous allons lire ensemble le paragraphe 2, 3 et 4 qui montre le rapport de chacune des personnes divines à l'Église. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie intime. Après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ Rédempteur, qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Tous ceux qu'il a choisis, le Père, avant tous les siècles, les a distingués et prédestinés à reproduire l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères. Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église, qui, annoncée en figure dès l'origine du monde merveilleusement préparé dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint et au terme des siècles se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les Saints Pères, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste, jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. Un texte d'une richesse étonnante et qui reprend l'ensemble de l'économie divine. Je voudrais formuler quelques réflexions par rapport à ce paragraphe qu'il me semble importante. C'est d'abord de voir que je ne peux concevoir le mystère de l'Église qu'en rentrant dans la volonté du Père. Autrement dit, qu'en rentrant dans l'intimité de Dieu. À travers l'Église, j'ai accès au mystère de la sagesse divine. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Ce qui signifie pour moi l'expérience que j'aurai de l'Église, dans ce qu'elle est en elle-même, c'est pour moi le reflet de la sagesse divine. C'est quand même extraordinaire. Autrement dit, j'ai accès, par l'économie du salut, à la sagesse de Dieu. Et donc c'est une invitation, vous voyez, à contempler cette sagesse qui nous est donnée. Et j'insiste sur le fait de contempler. Hein, vous voyez, contempler vient du verbe grec « théorein » qui signifie « regarder ». Bon, je pense que tout le monde le sait. Et le terme « théorein » signifie pas simplement regarder bêtement quelque chose, mais signifie devenir ce que l'on voit. C'est extraordinaire, vous voyez, l'étymologie de ce mot « contemplation ». Vous voyez, c'est regarder la sagesse de Dieu pour devenir semblable à cette sagesse. Et donc, ce n'est pas quelque chose de passif. Et d'ailleurs, on le voit bien, plus on regarde quelque chose de beau, plus on est beau. Et il est clair, plus on regarde un téléviseur, plus on ressemble à un téléviseur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression, ou sinon les journaux, vous savez, on a l'impression, de temps en temps, on est devant des gens, on a l'impression qu'on est devant le Monde. Ou le Figaro. Ouais, c'est, voilà, le reflet de ce qu'ils sont, c'est le reflet de ce qu'ils regardent. Et il est clair, plus on regarde des choses laides, plus on ressemble à ce qu'on regarde. Ça, c'est évident. Vous voyez, la spiritualité de l'été noir, les gens qui sont perpétuellement fatigués, qui sont perpétuellement dans l'angoisse, dans le... Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne regardent que des choses qui les perturbent et qui les angoissent. Et s'il n'y a pas quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes pour qu'on apprenne à devenir ce que l'on voit, ben on est foutu. Hein. Pas comment vous êtes, mais si, de temps en temps, telle est tête de téléviseur, on voit ça toute la journée. Et quelqu'un qui bosse, il pense qu'il se repose en regardant la télé. Et je... Bon, ben, pas parmi vous, c'est bien évident. Mais vous voyez, mais ça me semble vraiment essentiel d'apprendre à découvrir ça, le grand sens de la contemplation. Et la contemplation, c'est pas le tempérament lymphatique. Hein. Demandez à nos sœurs, j'espère qu'elles ne sont pas dans des tempéraments lymphatiques où, bon, on les assoit sur une chaise, on vient les chercher 2 heures après, puis elles sont contentes. Donc on les assoit à la chapelle, 2 heures après on vient les chercher, la cloche sonne, elles font autre chose, voilà, sorte de lymphatisme primaire dans lequel on se meut, plutôt on est mu. Et ça, c'est pas du tout la contemplation, c'est un état régressif au point de vue psychologique. Vous voyez, la contemplation, c'est l'engagement amoureux que j'ai par rapport au mystère de Dieu. Et cet engagement amoureux, il me permet de devenir ce qu'est Dieu. C'est quand même extraordinaire. Plus je le regarde, plus je lui ressemble. Il est clair que plus je regarde la miséricorde du Christ, plus je deviens miséricordieux. Si je regarde que mon agacement et l'agacement de mes frères, ben je deviendrai quelqu'un d'agacé. Vous voyez, c'est la maturité chrétienne, elle réclame un chemin de contemplation. Si ce chemin de contemplation n'existe pas, il y aura les fruits du baptême seront vraiment réduits. Donc vous voyez, j'insiste sur ce fait. Regardez à travers l'économie divine la sagesse de Dieu qui nous est donnée. Je continuerai plus tard. En guise de bibliographie, je vous invite à aller voir un livre en 2 volumes qui est écrit par Monseigneur Philippe. C'est un anglais, par Monseigneur Philippe, sur la constitution Lumen Gentium. Mais je crois que c'est sûrement un des commentaires les plus qualitatifs. Donc si jamais un jour vous tombez sur ce commentaire, je crois qu'en tout cas pour les frères, c'est une référence à avoir lu automatiquement.